la guerre de Cent Ans et le déclin du Moyen Âge. La politique religieuse de Charles V fut moins heureuse que son œuvre de libération et d'unification du royaume. Il voulut éviter la division de l'Église et la rendit inévitable. Le roi de France avait mal accepté le départ pour Rome du pape d'Avignon Innocent XI. Il s'y était résigné, mais il prêta une oreille attentive au rapport que les cardinaux français lui firent sur la façon irrégulière dont s'était passée l'élection de Urbain VI. Quand il apprit l'élection d'un autre pape du parti français, il crut bien faire en le reconnaissant. Sa décision pesa très lourd dans la balance. Malgré tous ses malheurs, la France restait le chef de file des royaumes chrétiens. Plusieurs autres pays imitèrent Charles V, et le pape d'Avignon se trouva ainsi légitimé et reconnu. Trop heureux d'avoir trouvé un tel soutien, Clément VII combla de faveur le royaume des Lys.
Nous rappelons quels troubles ont ébranlé l'illustre royaume de France. Nous éprouvons une tendre sympathie pour notre fils Charles, roi très chrétien. Nous nous proposons de toujours lui complaire par notre assistance fidèle et rapide.
Cette trop grande complaisance ne devait pas porter de bons fruits. L'Église de France, riche et comblée, prit très vite l'habitude de se considérer comme une Église à part. Cette tendance à l'indépendance s'appelle le gallicanisme. L'Université de Paris en fut l'un des principaux moteurs. Depuis le XIIIe siècle, la grande université régnait sur le monde intellectuel. La querelle entre les mendiants et les universitaires était demeurée vive. Les fils de saint François et de saint Dominique furent peu à peu chassés de l'université. Les maîtres de l'université ne cessèrent de s'enfler d'orgueil.
L'université possède les clés de la chrétienté.
La division de l'Église entre le pape de Rome et celui d'Avignon, ce que l'on appelle le grand schisme, ne fit que les confirmer dans leurs prétentions. Le pape pouvait se tromper, on ne pouvait donc se fier à lui. La sagesse résidait tout entière dans l'université. Ne prenant parti ni pour un pape, ni pour un autre, l'université voulut régler seule le problème. En 1396, le Concile de Paris proclama que l'Église de France ne devait plus aucune soumission au pape, puisqu'on ne savait lequel était légitime. Cette prétention orgueilleuse ne toucha guère le peuple, qui de bonne foi demeura persuadé que le pape d'Avignon était le seul authentique. Le ciel même semblait le confirmer. Auprès de Clément VII, un saint cardinal, Pierre de Luxembourg, avait vécu. La coutume, très contestable de l'époque, était de nommer évêques des fils de familles nobles. Des adolescents étaient ainsi consacrés, sans avoir la vocation ni l'âge nécessaire. Le résultat était souvent bien sûr lamentable. Dans le cas de Pierre de Luxembourg, il en fut tout autrement. Nommé cardinal et évêque de Metz à 17 ans, le jeune homme prit très au sérieux sa consécration. Sa vie fut d'une pureté admirable. Il mourut à 19 ans, et les miracles qui se produisirent